Bonjour, nous sommes le mardi 9 avril et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
Le dossier Van Hall n'en finit pas de rebondir. La faillite a été officiellement prononcée hier. Deux repreneurs ont déposé une offre de relance pour moins de 1000 emplois. Mais Guido Demaret revient à la charge avec un autre projet. Pourquoi Bpost a-t-elle racheté le groupe logistique français Staci ? On décrypte la question dans cette édition. Les déplacements en transport en commun pour se rendre au boulot seront mieux remboursés pour ceux qui ne bénéficient pas encore du tiers payant. Je suis Laurent Fabry et je vous accompagne pour ce brief.
Le brief, cette info, dès 7h.
La saga Van Hall n'en finit pas. Le repreneur de Flandre occidentale, Guido Dumaret, a fait une nouvelle offre pour reprendre la division autobus et autocar de l'entreprise. Une entreprise Van Hall qui, le matin même, a été officiellement déclarée en faillite. Alors on croyait son sort scellé, mais en toute dernière minute, hier soir, Dumaret revient dans la course aux enchères, dont il s'était précédemment retiré. Il est associé au groupe américain ABC, qui distribue les autocars Van Hall aux États-Unis. Les seules parties restantes étaient le néerlandais VDL et l'allemand Schmitz Cargo Bull, qui ont soumis ensemble une offre ferme pour une partie de Van Hall. Dumaret promet de préserver davantage d'emplois que ses concurrents. Lors de la conférence de presse d'hier matin, le groupe annonçait que 650 à 950 postes de travail resteraient sur les 2500 travailleurs du site campinois de Van Hall. Un bilan encore plus lourd que prévu. La nouvelle était évidemment très dure à encaisser pour les syndicats. Écoutez deux représentants du personnel.
Aujourd'hui est un jour noir. 2400 travailleurs perdent leur emploi avec la faillite. Et c'est très douloureux de constater qu'une entreprise familiale comme Van Hall puisse faire faillite. Van Hall est un symbole de l'industrie belge. Il y a les frites, le chocolat et les bus Van Hall. Aujourd'hui, ils disparaissent. C'est un nombre décevant que nous apprenons aujourd'hui. Jusqu'à 950 emplois sauvés seulement, c'est beaucoup moins que ce qu'on espérait au départ. Mais nous devrons nous en contenter. Les employés étaient incroyablement résignés aujourd'hui. La semaine passée, ils étaient en sursis. Aujourd'hui, c'est le coup de grâce. Même s'ils l'ont vu venir, c'est très douloureux. Ça se voyait sur leur visage. Beaucoup de gens ont commencé à travailler chez Van Hall avant même ma naissance. C'est tout un chapitre d'une vie qui s'achève brutalement.
Et si vous voulez connaître tous les dessous de cette affaire, écoutez le brief spécial qu'on y a consacré. Je vous remets le lien dans les notes de cet épisode. Il y en a une autre chez qui ça ne va pas très fort, c'est l'usine Audi de Forêt dans la banlieue bruxelloise. Elle a redémarré ce lundi, mais avec 371 travailleurs intérimaires en moins. C'était un moment attendu avec une certaine appréhension par les travailleurs, d'autant que la cadence de production a été réduite d'un quart. Ces annonces ont provoqué d'importants troubles sociaux au sein de l'usine. La reprise de la production n'écarte d'ailleurs pas encore la menace de grève. Tout dépend de l'évolution des discussions à venir avec la direction. Les syndicats veulent notamment une garantie de maintien de l'emploi pour les 3000 employés actuels. Le Premier ministre Alexander De Croo a confirmé lundi que la task force qui réunit le fédéral, les régions et la direction d'Audi Bruxelles se réunira pour la première fois ce vendredi afin de tout mettre en œuvre pour garantir l'avenir du site. Mais les syndicats n'ont semble-t-il pas reçu d'invitation. Bpost va faire son plus gros rachat jamais vu. Il s'empare du groupe de logistique français Staci pour la modique somme de 1,3 milliard d'euros. C'est énorme, cela représente près de deux fois la capitalisation boursière de Bpost. Après le rachat du groupe américain Radial pour 820 millions d'euros en 2017, c'est la deuxième grande transformation stratégique de l'histoire de l'opérateur belge. Cette acquisition semble correspondre aux nouvelles orientations stratégiques de Bpost. C'est ce que m'a expliqué Philippe Dartienne, le directeur financier du groupe.
Bpost fait face à de nombreux challenges, dont le déclin structurel des activités courrier en Belgique. Face à ces challenges, nous devons accélérer notre transformation et nous positionner au mieux sur toute la chaîne de valeur logistique, où on n'était pas nécessairement présent par le passé. Avec l'acquisition de Staci, on va se renforcer dans le domaine de la logistique opérationnelle pour d'autres entreprises, et plus particulièrement dans le segment B2B, donc business to business, ce qui aura aussi d'ailleurs des répercussions favorables en Belgique. En termes de géographie, on aura accès à la France et à l'Espagne où on n'était pas présent actuellement. Et enfin, on aura accès à de nouveaux secteurs, notamment le food and beverage, le pharma et le medtech, et enfin l'industrie au sens large, ce qui nous permettra d'avoir un portefeuille de clients plus équilibré.
Certains critiquent le montant élevé de l'opération, aussi bien du côté des analystes financiers que des syndicats qui s'inquiètent alors que des menaces pèsent sur l'emploi chez Bpost, notamment pour la distribution des journaux. Philippe Tartienne le répond.
Alors, ce que j'y réponds, c'est que Staci, c'est une entreprise de grande qualité qui offre des services sur mesure à haute valeur ajoutée à ses clients et qui génère une rentabilité supérieure à d'autres segments du secteur de la logistique. Tout ça combiné avec un modèle opérationnel donc peu consommateur en capex et en besoin de fonds de roulement et qui permet donc de dégager des cash flows opérationnels élevés. Et nous sommes convaincus d'avoir payé un prix juste pour l'acquisition de Staci. Bah, si on se renforce dans une activité plus rentable, plus génératrice de cash flow, bah, c'est une protection pour l'ensemble de l'entreprise et ça permet de dégager des liquidités pour continuer à investir dans tous les segments de l'entreprise, que ce soit dans le last mile en Belgique, que ce soit dans l'activité cross-border ou quand ce soit dans cette activité de services logistiques en Europe ou à l'étranger.
Alors, vu le prix élevé de l'acquisition, les investisseurs ont moyennement accueilli la nouvelle. Le titre a chuté de 8% en début de séance avant de se relever un peu pour finir à finalement une perte de 1,43% à la clôture. Peut-être qu'en ce moment, vous nous écoutez dans le train ou dans le métro en allant au travail. Eh bien, sachez que vos déplacements en transport en commun entre votre domicile et le boulot pourraient être bientôt mieux remboursés. L'intervention patronale passera de 56% à près de 72%. Et dès ce 1er juin, l'État, lui, interviendra pour 7,5%. Alors certes, la majorité des travailleurs qui prennent le train bénéficient du système du tiers payant où l'employeur prend en charge 80% de l'abonnement SNCB et l'État 20%, mais quelques 100 000 personnes doivent payer eux-mêmes une partie de cet abonnement. Du coup, les partenaires sociaux se sont réunis hier pour signer une nouvelle convention collective de travail et assurer un meilleur remboursement. La Belgique a emprunté 1,250 milliards de dollars à 30 ans. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement? Philippe Gallois, bonjour.
Bonjour Laurent.
La Belgique qui emprunte en dollars sur du long terme, on parle ici de 30 ans, c'est une première. Déjà, à quoi ça sert cet argent et pourquoi en dollars?
Alors cet argent sert à refinancer la dette publique belge. C'est comme n'importe quel emprunt émis régulièrement par l'État belge et qui passe habituellement plutôt par les OLO, comme on appelle ça, les obligations linéaires, donc qui sont des emprunts alors émis en euros. Ici, par contre, l'État belge a choisi d'émettre un emprunt en dollars pour une simple raison, c'est que les circonstances font qu'il était plus intéressant pour l'État belge d'emprunter dans ces conditions-là. Donc on va payer des intérêts qui sont un petit peu moins élevés en empruntant en dollars. Alors pourquoi ? Eh bien simplement parce que le niveau de l'euro combiné à l'évolution des taux d'intérêt en dollars et en euros et aussi au coût d'un produit qui permet de couvrir cet emprunt contre le risque de change, tout ça combiné ensemble permet d'avoir en fait un coût moindre que si on faisait l'emprunt avec le système habituel des OLO en euros.
Alors après avoir souffert face au dollar jusqu'à la fin 2022, l'euro a repris l'ascendant sur le billet vert l'année dernière. Aujourd'hui, un euro équivaut environ à 1,09 $. Mais si ça bouge encore à l'avenir, la Belgique est-elle couverte contre le risque de change ?
Oui, alors on recourt à un produit un peu particulier qu'on appelle un swap. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça permet en tout cas d'éviter que l'État belge soit exposé au risque de l'évolution de l'euro face au dollar dans les 30 prochaines années. Parce qu'ici, l'emprunt en question, c'est un emprunt sur 30 ans. Il faut pouvoir faire en sorte que ce coût soit fixé sur les 30 années qui viennent. Et en l'occurrence, grâce au swap, on permet de payer seulement un intérêt fixe, donc chaque année, un taux précis qui ne bougera pas pendant 30 ans.
Merci Philippe, toujours très clair avec vous. Voilà un dossier judiciaire qui risque de faire des vagues. Euronav, c'est une entreprise belge, l'une des plus grandes sociétés de transport de pétrole au monde. Eh bien, un fonds américain qui est actionnaire minoritaire de la compagnie lance aujourd'hui une action en justice contre Euronav, la compagnie maritime belge et Frontline. Alors, petit rappel des épisodes précédents. CMB, Euronav et Frontline sont trois armateurs actifs essentiellement dans le transport des produits pétroliers. En avril 2022, Euronav et Frontline annoncent leur intention de fusionner, un mariage tout de même à 4,2 milliards de dollars. Mais la noce tourne court, CMB, premier actionnaire d'Euronav, s'oppose à cette fusion. S'ensuit une bagarre assez homérique et puis finalement un accord à l'amiable. Frontline reprend 24 navires, Euronav reprend une filiale de la CMB et la CMB lance une OPA sur Euronav. Tout le monde semble content, sauf les minoritaires d'Euronav. Devant le tribunal d'entreprise d'Anvers, le fonds américain demande l'annulation de la vente des 24 navires d'Euronav à Frontline, ainsi que l'annulation du rachat par Euronav de la filiale CMB Tech. Le fonds Forward Capital Management est défendu par l'avocat Laurent Arnaut. Il explique pourquoi Euronav serait lésé par l'accord entre CMB et Frontline.
Il y a deux actionnaires qui se disputent la société, à savoir CMB, la compagnie maritime belge, et Frontline, qui est une société norvégienne. Le problème, c'est que finalement, ces deux actionnaires s'entendent entre eux, ils font la paix, mais sur le dos d'Euronav. Donc, CMB rachète toutes les parts de Frontline, mais en échange, Euronav doit vendre la plus belle partie de sa flotte à Frontline à un prix d'ami, hein, de 2,35 milliards de dollars. Euronav doit renoncer à une action arbitral contre Frontline, qui pouvait lui rapporter entre 400 et 500 millions. Et Euronav doit racheter à prix d'or, 1,15 milliard de dollars, une filiale de CMB, qui est en fait une filiale plus ou moins active dans la recherche et développement, et donc à problème et très intensive en capital. Et donc le résultat de tout cela, c'est que CMB et Frontline sont contents, mais pas du tout évidemment les actionnaires minoritaires, puisque Euronav en sort très appauvri. Soit le tribunal de l'entreprise d'Anvers annulera, soit éventuellement il allouera des dommages-intérêts aux sociétés qui ont intenté le recours, qui sont en fait des fonds américains.
Et le dossier ne s'arrête pas là. Une procédure en annulation avait déjà été lancée contre l'OPA menée par la compagnie maritime belge sur Euronav. La procédure est toujours en cours. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dit avoir fixé la date d'une offensive militaire sur Rafah. Israël présente cette ville collée à la frontière égyptienne comme l'un des derniers bastions du Hamas dans la bande de Gaza. Mais c'est surtout là aussi où sont réfugiés plus de 1,5 million de Gazaouis pour tenter de survivre aux attaques. Dans la foulée, les États-Unis ont réaffirmé avec force leur opposition à toute opération militaire majeure à Rafah. Et en parallèle, de nouvelles négociations indirectes en vue d'une trêve sont en cours cette semaine entre Israël et le Hamas. Le Hamas a admis cette nuit étudier un projet de trêve de plusieurs semaines contre la libération d'otages. La perspective d'un cessez-le-feu met sous pression aussi Benjamin Netanyahou. Des concessions trop importantes dans la guerre contre le Hamas pourraient provoquer une crise au sein de son gouvernement. Et à suivre aujourd'hui, le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'action intentée contre 32 États accusés d'inaction climatique. L'analyse à lire déjà maintenant sur l'écho.be et puis le verdict en direct dans la journée. Merci à Ondine Juarez qui a préparé cet épisode. Passez une très bonne journée. À demain.